Chapitre 11. Une noire et blanche, comme on surnommait les voitures de patrouille dans la police, déposa Atticus Gore sur le petit parking à flanc de forêt dans Griffiths Park. Un flic en uniforme montait la garde à l'entrée du périmètre délimité par du ruban jaune et noir. Atticus le salua et lui demanda depuis combien de temps la cavalerie était repartie.
« À peine une heure, inspecteur. »«
Vous faites la nuit ici ?»«
Ouais. »
Cela ne semblait pas l'enchanter et Atticus le concevait sans peine. Lorsque le soleil se serait couché, la faune des montagnes se réveillerait, les coyotes au loin, et en l'absence de tout lampadaire, on ne verrait pas à plus de 10 mètres si la lune ne se levait pas. La nuit serait longue, pleine de bruit. Atticus était passé par cette étape lors de ses années à battre le pavé dans des quartiers sordides. Et il savait que l'officier ne manquerait pas de penser aux cadavres qui avaient traîné là, quelques heures plus tôt, ou aux criminels qui pouvaient rôder dans l'idée de revenir sur les lieux. Chaque heure serait lente et éprouvante pour ce pauvre type. Et Atticus espérait que, si la nuit était calme, des camarades en patrouille non loin penseraient à lui apporter un café pour lui tenir compagnie. Atticus lui posa une main amicale sur l'épaule pour le réconforter, mais l'officier se dégagea un peu brutalement. Trop pour que ça ne soit pas autre chose que du dégoût. Manifestement, il savait qui était Atticus. Et des collègues bien intentionnés n'avaient pas manqué de préciser son orientation sexuelle.
Relax, officier. Je préfère les mecs avec un casque de chantier ou les Indiens.
Finalement, Atticus se mit à souhaiter une nuit agitée et interminable aux crétins de service. Il grimpa la pente et se hissa sous les branches les plus basses pour atteindre l'esplanade de gazon. La SID avait tout ramassé jusqu'au moindre indice, répertorié chaque trace et tout partirait bientôt en analyse. Mais rien ne valait un tour sur place pour se remémorer le site, pour respirer la scène. Atticus commença par la table de pique-nique en béton au cœur du rond d'herbe. Elle était encore maculée des produits chimiques utilisés par les techniciens pour faire apparaître les éventuelles traces de sang effacé. Atticus ne remarqua rien de plus que les quelques éclaboussures déjà relevées le matin même. Puis, il entreprit de déambuler à la recherche des insectes écrasés, mais ne débusqua que des trous. Tout avait été arraché au sol, mottes de terre comprises, en vue des analyses complètes en laboratoire. Il fit alors face aux enclos dans la falaise de blocs de pierre. Plusieurs cours sales, et pour chacune des arches donnant sur une galerie ombragée, elle-même conduisant à un escalier de service poussiéreux. Oscar Ariotto était vivant la veille au soir. Ça ne faisait plus aucun doute à présent. Sa voiture retrouvée sur le parking en contrebas permettait d'envisager qu'il puisse être venu de lui-même dans la soirée, après s'être fait verbaliser pour excès de vitesse. Le sang sur la table pouvait marquer le point de départ de l'attaque. Un rendez-vous nocturne, avec une source. C'était fort probable. Pourquoi choisir un endroit aussi éloigné et relativement peu accessible, sinon pour être tranquille, loin de toute surveillance possible ? Atticus n'imaginait pas Ariotto amener une fille ici. Ça n'avait pas de sens. Non, c'est pour le boulot. Et ensuite, la conversation dégénère, et une autre personne surgit. Atticus observa le site. La table de pique-nique était au centre. Il lui parut difficile qu'on puisse être attaqué par surprise là, même la nuit, la cachette la plus proche étant à plus de 50 mètres. Si la nuit était noire et l'agresseur particulièrement silencieux. Le flic émit un grondement sourd. Il n'était pas convaincu. Si Ariotto était venu jusqu'ici, c'est qu'il ne voulait pas de témoins, il devait être méfiant. On ne lui avait pas sauté dessus à l'improviste. Alors c'est celui ou celle avec qui il avait rendez-vous qui a fait le coup. Ça n'expliquait pas les insectes. Qui les avait répandus et pourquoi ? C'était comme si le sol en avait été tapissé et qu'Oscar Ariotto voulant s'échapper et, en les écrasant, inscrit le tracé de sa fuite. Impossible. Cela faisait beaucoup de choses impossibles depuis le début de l'enquête, songea Atticus. En tout cas, il est attaqué et cherche à s'enfuir. Il ne sait pas où aller, il hésite. Et dans la panique, il entre dans cet enclos. Il voit la galerie, l'escalier, grimpe et se retrouve dans un cul-de-sac. Là, il quoi ?
Qu'est-ce qui s'était passé ensuite? Atticus soupira. Il n'en avait pas la moindre idée. Les ombres commençaient à s'étendre. Elles sortaient lentement de leur tanière et s'allongeaient dans sa direction. L'inspecteur leva les yeux vers le ciel. Il avait encore une bonne heure avant le crépuscule. Le nez en l'air, il remarqua alors le promontoire rocheux qui dominait non loin. Un grillage délimitait ce qui devait être une sorte d'observatoire naturel, une vue panoramique sur le zoo. Atticus hésita avant de s'élancer. Il n'avait pas les bonnes chaussures pour grimper. Tant pis, il improviserait. S'il se dépêchait, il avait le temps de faire l'aller-retour avant que le soleil ne disparaisse. Un sentier déroulait sa langue brune par le nord, ondulant entre les massifs et longeant un filet d'eau qui dévalait sur des rochers polis par l'érosion. Atticus commença par le remonter, avant d'en emprunter un autre, plus étroit et sinueux. Il pestait lorsqu'il dérapait dans les virages aigus avec ses semelles lisses de citadin et s'accrochait aux branchages ou agrippait d'une main les pierres saillantes. Le parfum de la nature lui plaisait assez. Il était incapable d'identifier les odeurs précisément, mais il y avait des mélanges floraux, d'écorce, de terre, le tout brassé par la chaleur de ce début d'avril. Plus il avançait, plus l'ascension se faisait ardue. Il avait présumé de ses capacités. Le soleil se rapprochait de la ligne d'horizon, il n'aurait pas le temps de redescendre avant de ne plus rien y voir. Tant pis. Atticus n'était pas du genre à renoncer lorsqu'il entreprenait quelque chose. Il avait le dos en nage et les tempes luisantes lorsqu'il entama le dernier raidillon qui débouchait sur une intersection. Un panneau indiquait que la haute colline qu'il venait de gravir s'appelait Bi-Rock, et l'autre chemin menait vers des sommets plus éloignés et plus hauts encore. Atticus remarqua une route de service à l'écart, au flanc de la montagne sur laquelle Bi-Rock s'arrimait. Il aurait pu s'épargner une bonne suée. Il prit vers le sud. Un grillage s'élevait de part et d'autre du sentier au sol rocailleux et glissant. Il était au point culminant sur la saillie rocheuse, et sans ce grillage tordu et rouillé, le moindre faux pas aurait pu le projeter une centaine de mètres en contrebas avant que son corps ne dévale les pentes sauvages. Atticus parvint à l'extrémité de Bi-Rock, après une saillie calcaire en guise de dernière marche. La vue valait l'effort. Glendale au loin. Puis les monts Saint-Gabriel, et en bas, au milieu de la végétation épineuse, l'arrondi de l'ancien zoo. Atticus s'accorda un bref répit pour souffler et s'éponger le front, et regretta la bouteille d'eau restée dans sa voiture. Il dominait parfaitement la scène de crime, et même le parking plus loin, ainsi que la route. Atticus fut soudain traversé par une évidence devant ce spectacle. Ce n'était pas Oscar Oriotto qui avait donné rendez-vous ici. On l'avait fait venir. Avec un peu de chance, l'étude du journal des appels que l'opérateur allait leur procurer tendrait dans cette direction. Un coup de fil tardif pour le convoquer ici. Si Oscar Oriotto était tombé dans un traquenard, ce promontoire était le lieu idéal d'où tout superviser. En préparant bien son coup, on pouvait y accéder par la route de service, certainement réservée aux Rangers qui surveillaient Griffiths Park, mais qu'une personne suffisamment motivée ne devrait avoir aucune peine à emprunter une fois la nuit tombée. On pouvait repérer tout véhicule approchant le parking, puis, à l'aide de jumelles à vision nocturne, surveiller la table de pique-nique. Atticus réalisa que tout cela supposait des moyens assez exceptionnels, et même l'intervention de plusieurs personnes. Parce qu'il est mort de façon spectaculaire. Il faut plus d'un homme pour réussir un coup pareil. En était-il sûr? Le propre d'un grand pervers n'était-il pas de développer une imagination criminelle hors norme? La vérité, c'est qu'il n'en savait rien. Il ne disposait d'aucun élément matériel assez probant pour valider la moindre hypothèse, et à en croire la réaction du légiste, il était préférable de ne pas s'attendre à des miracles de son côté. Atticus s'agrippa au grillage qui émit une plainte métallique. Son instinct lui soufflait qu'il était en train de contempler la scène d'un crime fou. Et plus il la regardait, plus il était convaincu que rien n'avait été laissé au hasard. Certainement pas l'emplacement. Quelqu'un se tenait exactement ici cette nuit. Et il a tout vu, dit-il pour lui-même. Comme pour le lui confirmer, un coyote se mit à japper au loin dans les montagnes. À moins qu'il ne se moquât.